Bonjour Monsieur Benkens, merci de nous recevoir dans les bureaux de la RTBF. Nous vous rencontrons dans le cadre d'une épreuve de français qui est destinée à des jeunes d'environ 14 ans. Votre voix leur sera certainement connue. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu?
Alors je m'appelle Rodrigo Benkens, un prénom portugais donné par une maman portugaise qui est tombée amoureuse d'un Belge en 1958 lors de l'exposition universelle. J'ai le grand privilège de faire comme métier ce qui a toujours été ma passion, c'est-à-dire de commenter les événements sportifs. Et les deux disciplines qui m'incombent sont le cyclisme. Je commente les courses cyclistes en général, le Tour de France en particulier depuis 1990 pour la RTBF en télévision. Et parallèlement, le football. Et depuis maintenant quelques années, j'ai le bonheur de commenter les matchs des Diables Rouges.
Dans la nouvelle qui a été lue par les élèves, il est vraiment question du Tour de France, justement. Alors, comment est-ce que vous pourriez décrire cette épreuve à des jeunes de 14 ans qui ne la connaissent pas nécessairement et qui, en plus, ne sont même pas nécessairement férus de cyclisme?
Alors, justement, je pense que de tous les événements sportifs qu'il est donné de relater, d'expliquer, de faire vivre, le Tour de France est le plus singulier. Pourquoi? Parce que, d'abord, le Tour de France, c'est 21 étapes en intégralité. On dépasse les 100 heures de commentaires en direct. Le Tour de France est la seule grande épreuve qui se déroule pendant les vacances scolaires. On touche donc un public très différent. Et moi-même, je vois que lorsque je commente une course comme Paris-Roubaix, je ne peux pas la commenter de la même manière qu'un Tour de France parce que je n'ai pas le même public. J'ai des gens, bien sûr, les passionnés sont là, comme ils sont là sur Paris-Roubaix, mais j'ai des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent pour d'autres choses. Parce qu'il y a des paysages extraordinaires aujourd'hui avec la haute définition, la 3D. Il y a des histoires à raconter. Vous savez, quand on commentait un match de foot, on n'avait pas la place au milieu d'une action pour raconter une belle histoire. Le cyclisme le permet. Il y a la légende, il y a la notion d'épopée. On peut vraiment raconter plein de choses à travers un commentaire sportif.
Et vous avez un rôle aussi de transmission, peut-être, d'une certaine histoire du Tour de France.
Alors, oui, c'est un rôle, c'est un devoir, c'est la mémoire. On a un devoir de faire des liens, de raconter les histoires. Mais évidemment, des belles histoires viennent au glorieux temps des premières éditions où déjà il y avait ce côté magique parce qu'il n'y avait pas la télé, parce qu'il n'y avait que des photos, les routes étaient différentes, les vélos étaient beaucoup plus lourds. Donc il y a toujours des belles histoires à raconter. Maintenant, moi j'aime bien raconter pour notre patrimoine cette période qui va juste après la Première Guerre mondiale, parce que là on s'aperçoit qu'il y a une richesse incroyable du cyclisme belge en général, et wallon en particulier. Aujourd'hui, on dit, tiens, on a parfois un, parfois deux, c'est très rare. Là-bas, on a eu des gars, des Namurois, comme Firmin Lambeau ou Léon Sieur, qui étaient sur le toit du monde à l'époque. Et bon, on est quand même plus de 100 ans plus tard maintenant, pratiquement. Donc ça, il faut aussi pouvoir expliquer ça. Et il y a eu des phases, par exemple pour le cyclisme belge, c'est cette bonne période. Puis pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des champions, des gars qui ont gagné le Tour de France en 1912, en 1913, et qui sont morts pendant la guerre au combat, et qui auraient sans doute eu une carrière extraordinaire. Un, s'il n'y avait pas eu la guerre. Deux, s'ils n'étaient pas décédés en défendant la patrie, ils auraient pu poursuivre. La même chose dans l'interruption entre le dernier tour 1939 et le tour suivant 1947. C'est toujours la bonne colle qu'il faut poser aux jeunes. Qui a gagné le tour en 46? Mais personne, il n'y en a pas eu. Donc, c'est aussi, il y a des carrières qui se sont arrêtées. Il faut pouvoir raconter qu'il y a eu ces événements-là qui ont fait qu'à un moment donné, mais voilà, on ne pouvait pas, pendant l'occupation, organiser le Tour de France et des épreuves dissidentes. Puis on a eu des grandes périodes. La première, peut-être, celle avec Coppi et Anquetil. Puis on a eu la période, forcément pour nous, d'Eddy Merckx, hein, on ne peut pas passer à côté. Et puis alors on a eu, je dirais, fin des années 80, début des années 90, arrivé d'un autre cyclisme peut-être, où là, notre mission de journaliste d'investigation a été très importante. Il faut être conscient que c'est un sport excessivement dur, et qui demande des sacrifices absolument hallucinant. Vous savez que quand en football il fait mauvais, on va s'entraîner en salle. En cyclisme, il faut faire les kilomètres, quelle que soit la météo. Et si on n'a pas les kilomètres dans les jambes, on n'arrive pas quand même à être performant.
Monsieur Benkens, en dehors de sa difficulté, qu'est-ce qui fait du cyclisme vraiment un sport à part?
Avec tout le respect pour d'autres disciplines, mais essayer d'aller jouer, d'aller taper une balle contre Nadal ou de monter dans une Formule 1, non, le vélo, ah, quoi, Pantani a grimpé l'Alpe d'Huez en 43 minutes? Ah ben, je vais essayer. Moi, je l'ai fait en 1h25. Waouh, chouette. On peut le faire. On a des points. C'est ça qui est génial. En plus, le vélo est aussi le seul sport gratuit au monde, hein, où vous pouvez, il y a presque un rapport tactile avec la vedette. Les footballeurs, si vous approchez Ronaldo de moins de 5 mètres, vous avez trois gardes du corps sur le dos. Le coureur, vous pouvez le toucher, presque même le faire tomber. On voit ça dans l'école, hein. Il y a quelque chose de dingue.
Merci beaucoup.
Ben, avec plaisir.